Bonsoir. Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. 251 Congolais morts, c'est le bilan officiel du naufrage survenu samedi dernier sur le lac Albert. Le gouvernement décrète un deuil national de 3 jours à cet effet. Ensuite, nous parlerons des retombées de la réunion de Kinshasa jeudi passé. Dans une déclaration publiée vendredi passé, la majorité présidentielle soutient l'organisation des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Pour en parler, je reçois 3 confrères. Claude Molicho Kayembe, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Bonsoir Claude.
Bonsoir Alain.
Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Bonsoir Clément.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
J.R. Mokolo, rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. J.R. Mokolo, bonsoir.
Oui, bonsoir Alain Yurong Mouchige, bonsoir des auditeurs de Radio Capi.
Voilà, bienvenue à tous dans votre émission. 251 morts dans le naufrage survenu le week-end dernier sur le lac Albert et les retombées de la réunion de Kinshasa jeudi passé. Voyons comment la presse kinoise a traité ces sujets et bien d'autres qui ont fait l'actualité dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
Naufrage sur le lac Albert, RadioCapi.net rapporte que le gouvernement de la République a décrété jeudi 27 mars un deuil national des 3 jours pour marquer la solidarité et la compassion de la nation avec les familles des 251 réfugiés congolais qui revenaient de l'Ouganda mais qui sont morts noyés dans le lac Albert samedi 22 mars dernier. Ce deuil national est effectif depuis ce jeudi. Les phares titrent à sa une, le cabinet Matata annonce une enquête et imprime tel quel un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre. Le gouvernement de la République s'est dit très préoccupé et profondément triste par le naufrage de l'embarcation transportant plus de 200 réfugiés congolais sur le lac Albert en provenance de l'Ouganda et prend toutes les dispositions urgentes afin que soit diligentée une enquête indépendante pour établir la responsabilité quant à cette tragédie. De son côté, la tempête des tropiques titre assistance des victimes du lac Albert. Kinshasa intervient en retard. La presse a également fait état de la rencontre de Kinshasa du 21 mars dernier. L'agence congolaise de presse, ACP en sigle, renseigne évaluation de la situation politique, économique et sociale des actions réalisées par la majorité présidentielle. Nous avons échangé face à ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire pour l'avenir au regard des enjeux politiques, économiques et d'ordre social, a déclaré le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obem Inaku, au terme de cette rencontre. Selon la référence plus, rencontre de la MP à Kinshasa, Joseph Kabila, pas de complot contre la République. Pour son secrétaire général, Obem Inaku, paraphrasant Joseph Kabila, la MP ne s'est pas réunie à Kinshasa pour comploter contre la République. Il a poursuivi en soulignant qu'il n'était nullement question de modifier la Constitution, ni de prolonger le mandat du chef de l'État actuel qui reste disposé à céder son fauteuil à son successeur qui sera élu lors des élections de 2016. Ministre sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, l'observateur informe à sa une, de la sous-région des Grands Lacs. Si chefs d'État à Luanda réfléchissent sur la sécurité de la région, les ministres sommets des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a eu lieu mardi 25 mars à Luanda, capitale angolaise, sous l'égide du président en exercice de l'organisation, Eduardo dos Santos. D'après l'avenir, les ministres sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL consacrés à l'éradication des forces négatives dans la région des Grands Lacs est donc tombé au moment opportun afin de permettre aux membres de la CIRGL de réfléchir sur les défis que les autorités congolaises doivent désormais relever. Ces mini-sommets organisés à Luanda avaient pour objectif de susciter une réflexion sur la paix, la stabilité et la sécurité régionale. Recommandation de la conférence minière à Goma, l'avenir rapporte, clôture de la 2e conférence minière, le gouvernement s'engage à mettre en valeur les ressources naturelles. La 2e édition de la conférence sur les mines en RDC s'est clôturée mardi 25 mars à Goma. Dans son discours, le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a souligné l'engagement du gouvernement à mettre en valeur les ressources naturelles de la RDC pour relancer l'économie.
Merci Guy Maté. Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, Guy Maté l'a dit dans sa revue de presse, il y a la clôture mardi dernier de la conférence de Goma sur les ressources naturelles. Un commentaire.
Oui, voilà, c'est une bonne chose parce que la 2e conférence, la première a eu lieu au Katanga l'année dernière, mais nous voulons assez qu'on arrive effectivement à mettre en valeur comme ils ont dit dans les recommandations, mettre en valeur les ressources minières. Et cette fois-ci, on inclut également la production énergétique, les problèmes d'environnement. Tout ça, ça sera mis aussi dans la loi, dans le code minier qui est appelé à être révisé, qui doit se conformer aux réalités actuelles. Mais il faut toujours arriver à l'objectif, c'est-à-dire transformer les matières premières ici, donner une valeur ajoutée pour que lorsqu'on exporte, qu'on puisse tirer les dividendes vraiment pour le bien, pour le budget, pour le social des Congolais.
Il y a aussi cette réunion de la CIRGEL à Luanda, Claude Molichon. Encore un commentaire.
Oui, et effectivement, c'est une réunion très très importante. Vous savez que il y a encore des problèmes au niveau de la région, hein, sur le plan sécuritaire, sur le plan relations inter-État. C'est bon parce que le président en exercice, José Eduardo dos Santos, a essayé un peu de marteler une fois pour que, au niveau du Rwanda et de l'Ouganda, qu'on puisse un peu être souple dans la résolution des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est le sujet qui a vraiment dominé les débats, et même au niveau de l'Afrique. L'Afrique aussi est intervenue pour essayer un peu de dire que non, cette fois-ci, il faut qu'on aille jusqu'au bout dans cette logique-là de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo sans arrière-pensée côté rwandais et ougandais.
JR Mokolo, rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. JR Mokolo, également un commentaire sur la deuxième conférence de Goma sur les ressources naturelles.
Oui, c'est une bonne chose qu'on se retrouve de temps en temps pour réfléchir sur comment mettre fin à ces paradoxes d'un pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles. On nous a appris depuis l'école primaire que nous étions un scandale géologique. Mais ce paradoxe-là, où on est un scandale géologique, on est doté d'immenses ressources naturelles, mais dans la réalité, nous croupissons dans la pauvreté. Comment faire en sorte, par exemple, que c'est tout ce que nous avons comme ressources puisse quand même contribuer à financer les budgets de l'État, que nous ne puissions pas avoir un budget des misères comme nous l'avons aujourd'hui. On peut par exemple s'inspirer d'autres pays, des pays voisins comme l'Angola. L'Angola n'a peut-être pas la même quantité de ressources naturelles comme nous. Mais quand on voit l'Angola aujourd'hui, c'est un pays très très prospère. On se rend même compte que l'ancienne puissance coloniale, le Portugal, est en train pratiquement de regarder vers l'Angola. Beaucoup de Portugais quittent leur pays pour aller en Angola trouver, c'est pas de l'emploi, des opportunités d'affaires. Même nous-mêmes, sous Congolais ici par exemple, nous quittons notre pays en masse pour aller en Angola. Donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire en sorte que nos richesses potentielles qui sont enfouies dans les sols et sous-sols puissent être transformées en véritable en richesse réelle et que nous ayons un budget digne de notre grandeur.
Voilà, la semaine était très riche en actualité. Il y a également l'affaire Diomi Ndongala, condamné à 10 ans de prison par la Cour suprême de justice.
Oui, bon, en fait, c'est un procès qui donne l'impression vraiment, quand vous suivez beaucoup de commentaires à travers le monde, et j'ai même suivi, je crois, un membre de l'Union parlementaire internationale dire que ça, c'est un procès politique, on voudrait pratiquement lui régler des comptes, parce que même la façon dont on a rendu ce verdict-là, bon, personne n'était pas. Il n'y avait que pratiquement les 5 juges de la Cour suprême et les greffiers, et ni les partis adverses, ni les avocats de Bemba, ni lui-même, de Diome, pardon, étaient présents. Donc c'est quand même un procès qui démontre que, bon, quelque part, Diome peut-être dérangeait beaucoup et qu'on a l'occasion, là, à travers la justice, de pouvoir en tout cas le boucler la gueule.
Clément Mangoubou, vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Quelle est l'actualité dans votre province?
L'actualité en province aujourd'hui, c'est la désolation, c'est l'émoi par rapport au naufrage qui a endeuillé la province et tous les pays. Et les gens ne comprennent pas tout à fait ce qui est arrivé, parce que les gouvernements auraient pu anticiper par certaines mesures. Quand on est réfugié, on a droit à être géré aussi par la nation. Et les gens ne comprennent pas ce qui est arrivé. Les gouvernements auraient pu anticiper en cherchant à savoir qui veut rentrer, pourquoi il va rentrer, comment il va rentrer, par quels moyens il va rentrer et comment organiser tout cela. Donc les gens ne comprennent pas. Et les réveils tardifs du gouvernement passent ici pour pour un mépris de la population, pour une négligence de la population. Et même les discours de Mende est aujourd'hui perçu comme un aveu d'impuissance de l'État face à ses responsabilités.
Voilà, Clément Mangoubou, c'est pratiquement notre premier sujet hein, que nous allons aborder tout à l'heure. Je vous prie de vous retenir un peu le temps juste avant que l'on termine cette partie, d'annoncer que la presse congolaise est en deuil. Notre confrère Jean-Pierre Mukenge Mpanya, éditeur du journal La Cloche, est décédé cette semaine. C'était parmi les invités de la tribune de la presse et donc nous avons une pensée pour lui ce soir en faisant cette émission. Passons à notre premier thème de ce soir. 251 Congolais morts dans le naufrage survenu le samedi dernier sur le lac Albert. C'est le bilan que fournit ce jeudi le gouvernement congolais. Ces Congolais réfugiés au nombre de près de 300 avaient de leur propre initiative, précise le porte-parole du gouvernement congolais, acheté des places à bord d'un bateau privé ougandais qui ne présentait vraisemblablement pas les garanties de sécurité requises. Mais pour marquer la solidarité et la compassion de la nation, Lambert Mende annonce que le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours, prenant effet à dater de ce jeudi. Lambert Mende au micro d'Innocent Olinga.
La réaction qui paraît tardive a deux raisons. La première, c'est que le gouvernement ne pouvait pas communiquer avant d'avoir eu le résultat final des recherches qui sont très laborieuses sur un lac qui a des dimensions assez importantes et par une météo totalement exécrable qui a pris beaucoup de temps avant que nous ne pouvions avoir des nombres qui nous paraissent significatifs par rapport à celui des personnes qui avaient embarqué sur ce navire. Deuxièmement, le gouvernement à partir du 21, se transportait à Goma pour commencer le 23 et le 24 la tenue des assises de la conférence minière. Le gouvernement étant absent du siège des institutions, il a fallu que nous rentrions au siège des institutions pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent.
Voilà, Clément Mangoubou, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Vous nous parliez de la désolation qu'il y a dans cette province à cause de ce naufrage. Et vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement. Vous fustigiez également l'attitude du gouvernement. Je vous redonne la parole, Clément Mangoubou.
Oui, je crois que face à cette tragédie, le gouvernement a tout simplement été dans... Je voudrais dire que le gouvernement a affiché une indifférence, une sorte de négligence coupable. Je crois que c'est un mépris pour la population, parce que le gouvernement savait que nous avions des réfugiés en Ouganda. Et les réfugiés, on les gère aussi, la nation doit les gérer. On doit savoir, parce que le ministre parle des mauvaises conditions qu'ils devaient quitter à cause de cela. Mais quand les réfugiés doivent quitter, mais il faut voir les ACR, il faut voir le gouvernement ougandais, voir comment organiser les déplacements, les retours de ces réfugiés, comment ils vont quitter, quel est le moyen qu'ils vont prendre, est-ce que le moyen est approprié et comment ça va se passer. Mais pratiquement 2 ou 3 jours après, le gouvernement s'est réveillé et le ministre vient de dire tout le gouvernement s'est transporté à Goma, donc le gouvernement était mort. Il n'y avait plus, on ne pouvait plus gérer les restes du pays, on ne pouvait gérer que Goma en ce moment-là, ce qui n'est pas normal. Et l'autorité ne doit pas être absente. Et je crois que le gouvernement aurait dû anticiper en prenant des mesures, en se mobiliser pour les secours. Mais le gouvernement ne l'a pas fait, le gouvernement attendait. Et est-ce qu'on peut vraiment attendre tous les résultats comme ça à Goma pour décider par la suite d'un deuil? Mais le deuil apporte quoi? On ne sait pas. Moi, je crois que là, c'est une attitude quelque peu irresponsable.
Mais Clément Mangoubou, est-ce que le ministre Mende n'a-t-il pas quand même raison du moment que l'incident ou le drame s'est produit dans un pays étranger, sur un sol étranger, et tout ce qu'il faudrait pour entrer en contact avec ce pays-là, prendre connaissance, avoir les différentes données, les différents résultats des enquêtes et tout ça, est-ce que le gouvernement n'a pas quelque part raison?
Bon, le gouvernement pourrait avoir quelque part raison, mais il n'a pas du tout raison, parce que nous avons une représentation en Ouganda. Je crois que la représentation aurait dû suivre aussi. Et à partir du moment où l'incident est survenu, le gouvernement aurait dû se mobiliser en accord avec l'Ouganda, justement, pour organiser les secours. Donc, il ne faut pas attendre que les données tombent pour commencer à organiser les secours. Le gouvernement n'a pas du tout raison. Le gouvernement aurait dû se mobiliser dès les premiers instants. Je crois que la conférence sur les mines, c'est aussi important, mais la vie des gens, les gens qu'on administre, c'est important aussi.
J.R. Mokolo, vous êtes rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Vous venez de suivre les mois, la désolation de Clément Mangoubou par rapport à ce drame. Bon, le ministre Mende dit que le gouvernement était à Goma, mais on a quand même vu dans d'autres, sous d'autres cieux, des présidents de la République quitter même des sommets lorsqu'il y a des problèmes chez eux.
Oui, c'est vous avez totalement raison. Le dernier exemple en date, c'est le Barack Obama, le président américain. Vous savez, il y a éboulement de terrain dans une localité aux États-Unis. Et le président est parti de là-bas. Il a pris la parole pour quand même adresser sa compassion à la population et coordonner les secours. Donc, le gouvernement ne peut pas attendre seulement qu'on rentre à Kinshasa pour qu'on prenne ses responsabilités. Et face à ce qui est arrivé, par exemple, pour ces réfugiés-là, il y avait en fait il y a la ressource partagée entre les gouvernements de la RDC, il y a le gouvernement ougandais et l'HCR. Mais à travers notre ambassadeur, on pouvait déjà, parce qu'on nous apprend par exemple que ces réfugiés manifestaient déjà leur désir de pouvoir rentrer au pays depuis longtemps, parce qu'ils ont fui les affrontements ici dans notre pays, ils ont fui la mort au Congo, ils sont allés là-bas. Mais dès là où ils sont allés se réfugier, ils n'étaient pas bien traités. Ils se disent non, mieux vous rentrer dans notre pays, comme la situation s'est calmée un peu. Il y avait moyen qu'au niveau de notre ambassade en Ouganda, on puisse par exemple envoyer des délégués sur place, voir dans quelles conditions ces réfugiés-là sont là, avec l'HCR, avec le gouvernement ougandais, on pouvait organiser par exemple un rapatriement ordonné. Il fallait pas attendre qu'il y ait des catastrophes chez nous. Apparemment, on attend seulement qu'il y ait des problèmes, il y ait des catastrophes pour qu'on agisse. Mais souvent, même quand on agit demain, on aura encore à vivre autre chose. Et bon, il faut aussi, ça pose aussi un problème des moyens de transport. Le ministre Mende dit qu'ils ont payé des places à bord d'un bateau ougandais. Est-ce que le Congo, le gouvernement congolais, par exemple, a une entreprise de transport fluvial qui assure le transport sur le lac Albert? Est-ce que nous en avons? C'est un grand problème aussi. À l'Aïrou, je suis passé il n'y a pas longtemps, sous la route des poids lourds, et j'ai vu par exemple les bateaux de la compagnie nationale de navigation, l'ex-ONATRA. Un bateau où le ministre des Transports est allé inaugurer le début des travaux de réhabilitation. Je vis ça aujourd'hui, ces bateaux-là, Itébé Kokolé, les autres, c'est dans le même état où il y a une année et demie, je crois, que le ministre est allé inaugurer les travaux pour sa réhabilitation. Donc ça pose un problème de difficulté que les Congolais ont à pouvoir, en tout cas, voyager à travers leur pays. Quand vous prenez entre Kinshasa et Brazzaville, il y a quand même des moyens de transport congolais qui assurent les transports, au même moment que les Congolais d'en face aussi assurent les transports. Mais il semble-t-il, sur ces lacs Albert-là, il n'y a aucun moyen de déplacement congolais que ces gens-là pouvaient prendre. Donc ces transports qu'ils ont pris, c'était celui-là. Donc il fallait pas, parce que moi je ne vois pas les deuils de trois jours. Ça ne pourra même pas aider ces victimes-là. Ça ne pourra pas aider les familles de ces victimes. Ce qui peut les aider, c'est que le gouvernement puisse aller sur place, essayer d'identifier tous ceux qui sont victimes, qu'on essaye de leur venir en aide. Les trois jours de deuil national, on peut en faire même 20 jours, ça ne donnera aucun résultat. Et in fine, moi, je suggérerais que pour pouvoir gérer quand même des catastrophes naturelles, des accidents comme ça qui ne sont pas prévus, il faut que le gouvernement, je crois, sous la supervision du ministère des Affaires sociales, c'est d'autres, par exemple, d'un organisme comme la protection civile, un organisme qui est là prêt, avec tous les équipements, avec tous les
budgets, voilà,
à réagir en cas où il y a des problèmes. Par exemple, on connaît des inondations ici à Kinshasa, où les rivières débordent, où il y a par exemple une épidémie de choléra à gauche, à droite. Donc il faut qu'on ait une équipe comme ça, une structure qui a déjà un budget bien équipé avec un personnel bien formé, prêt à pouvoir intervenir.
Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Il se pose visiblement un problème de gestion autour de cette catastrophe.
Oui, Alain, il faut dire que le drame du lac Albert relance les débats sur la protection des Congolais, soit à l'extérieur comme à l'intérieur de leur pays. Et on a comme l'impression qu'on ne se soucie pas beaucoup sur la protection des Congolais, disais-je. C'est-à-dire que moi, j'ai dit toujours que s'il y a un gouvernement, c'est parce qu'il y a un peuple, il y a une population. Et un gouvernement est là, est en train de travailler pour la population. Il faut voir plus de 250 morts. C'est grave. C'est grave pour un pays. Et les drames s'est passé le week-end dernier. depuis le samedi, il fallait attendre 5-6 jours pour que le gouvernement réagisse. Il y a un principe dans la gestion de la chose publique, il faut réagir vite et bien dans tout ce qu'on fait comme action, comme réaction dans la gestion de la chose publique en tant que gouvernement. Donc là, je dirais que ce soit les HRO, comme c'est les Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement ougandais, le gouvernement congolais, donc les responsabilités sont partagées. Tout le monde s'est réveillé en retard, surtout les HR, parce qu'on savait que les opérations militaires qui se produisent du côté du Nord Kivu, Kamango, et on a tenté de pacifier la situation. Les Congolais ont envie de rentrer chez eux parce qu'ils ont beaucoup souffert du côté ougandais. Et il fallait vraiment créer des conditions de les rapatriement pour ceux qui veulent du moins rentrer dans leur pays. Mais les HR a failli à sa mission, même s'il a lancé aussi un message de compassion, adressé un message au chef de l'État. Non, c'est en retard. Et il fallait vraiment faire son, les HR devaient faire son travail, identifier ces réfugiés, demander ceux qui veulent rentrer et comment organiser les retours. Mais on a laissé ces gens, ils se sont débrouillés, et là la première embarcation est arrivée à bon port. C'était la deuxième qui a commis le naufrage, qui a chaviré. Et il faut aussi noter que les gens, peut-être les auditeurs de Radio Capi ne savent pas, il y a eu aussi un autre transport d'un camion, un gros camion qui venait toujours vers la frontière lacustre du côté de la Calbert, côté ougandais bien sûr, pour déposer les Congolais. Mais là, curieusement, tous les Congolais sont morts, mais le chauffeur ougandais est sorti indemne avec les deux membres de sa cabine. Bon, ça dénote un peu que les Congolais peuvent mourir, les gens ne font pas attention. C'est pas bon pour un gouvernement responsable. C'est-à-dire que il y a encore des Congolais qui sont en Ouganda aujourd'hui, des réfugiés congolais qui sont en Ouganda, qui cherchent comment être secourus par leur gouvernement. Ils attendent. Les HR ne fait rien, le gouvernement ne fait rien, et même s'il s'est réveillé en retard, mieux vaut tard que jamais avec les deux nationales. Mais il faut aller au-delà de ces deux nationales, c'est-à-dire secourir les familles des victimes, comment ils peuvent, ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer.
Et organiser un retour en bonne et due forme.
Effectivement, et surtout tenir compte de la protection des Congolais, qu'ils soient en France, aux États-Unis, en Indonésie, partout où ils sont. S'ils meurent, le gouvernement doit se ressaisir pour essayer un peu de réagir vite et bien.
Clément Mangoubou, Claude Molichot pose le problème de la protection des Congolais à travers le monde. On a par exemple vu en France, lorsqu'il s'agissait d'Ingrid Betancourt qui était prise en otage en Colombie, c'est tout le pays qui s'est mobilisé. Mais quelquefois on s'étonne quand il y a des Congolais qui ont des problèmes à l'étranger, qui meurent, qui ont des accidents, et ça passe vraiment inaperçu. Un bref commentaire.
Bon, ça ne passe pas tout à fait inaperçu. Les gens sont au courant de ce qui se passe. Vous savez, ce qui se passe à côté de vous, là, en Angola, chaque fois, les Congolais sont maltraités, malmenés, renvoyés comme des mouches, mais à la fin, il n'y a pas de réaction. Ça se passe aussi du côté du Congo-Brazzaville, cela arrive aussi, mais il n'y a pas de réaction. Ça se passe ça peut se passer à l'Ouganda, il n'y a pas de réaction. Je pense que le gouvernement doit prendre des dispositions pour véritablement protéger les Congolais, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Parce que cela est important. Mais comment ils peuvent être rassurés qu'ils ont un gouvernement qui les administre et qui les rassure? Donc, je crois que le gouvernement doit à tout moment anticiper sur certaines choses. Il ne faut pas attendre que cela arrive pour que on commence à dire bon, voilà, on va prendre des mesures, il y aura des visites, des consolations, il y aura des enquêtes, il y aura ces... Mais il faut anticiper. Ce qui est arrivé à Ouganda, c'est arrivé, mais on aurait pu éviter la tragédie.
Germo Kolo, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème aussi au niveau du bilan? Parce qu'on se rappelle qu'entre-temps, il y avait des corps en putréfaction qui ont été enterrés du côté ougandais, du côté de Watalinga, au Nord Kivu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème également avec le bilan?
Oui, je suis convaincu que personne, en tout cas, ne pourra nous fournir le bilan exact des victimes de cette catastrophe. Parce que même quand les gens embarquaient dans ces bateaux-là, à ce que ça, je ne crois pas qu'il y avait
un manifeste
répertoriant la liste de tous les passagers. Et ça arrive même chez nous ici. Et un bateau surchargé qui quittent un port public ou privé de Kinshasa ici ou vit aussi de la police et des agents de la DGM. Donc ça ne préoccupe pratiquement personne. Et moi, je déplore aussi l'attitude du gouvernement ougandais. Moi, je me dis, nous les Congolais, nous sommes en tout cas très hospitaliers. Je n'ai jamais appris que le Congo, par exemple, a renvoyé des réfugiés ou a malmené des gens qui sont venus trouver réfugié ici. C'est toujours nous les Congolais, quand nous allons à l'étranger, nous sommes malmenés. Et notre confrère Clément Mangoubou a cité par l'exemple de l'Angola. Il faut voir dans quelles conditions les Congolais sont chassés de l'Angola. Et quand ils arrivent, par exemple, sur le territoire congolais, il n'y a aucune disposition qui est prise par les autorités
pour les accueillir,
pouvoir les prendre en charge. Donc ça pose vraiment un problème, comme vous l'avez dit. Et quand en France, Ingrid Bentancourt est enlevée, c'est tout le pays qui est mobilisé. Chez nous, ici, il y a des prêtres, je crois, dans les territoires de Béni, qui sont portés disparus, enlevés jusqu'à maintenant, et c'est parti comme ça. Personne ne fait des bruits, personne n'en parle, personne n'a de chercher à savoir quel est le sort qu'on a réservé à ses compatriotes congolais. C'est vraiment triste. Il faut que notre gouvernement apprenne à ne pas seulement se battre pour se maintenir aux affaires, mais quand vous avez des pouvoirs, il faut les gérer pour le bien de la population.
Avant de passer à notre deuxième thème, Claude Molicho, Gérard Mokolo, dans sa première intervention, a relevé le problème de la gestion des catastrophes, la prévention par rapport aux catastrophes, ça pose un problème, pas seulement en RDC, mais en Afrique de manière générale.
Oui, c'est très très évident. Dans les pays africains, et surtout les pays subsahariens, on constate beaucoup, mais du côté du Maghreb, avec ceux qui veulent se rendre en Europe par navire ou sortent par des embarcations de fortune, ils connaissent aussi ce genre de drames. C'est pour vous dire que nous avons des structures qui existent que des noms. Je peux prendre un exemple ici chez nous, tout plus près, le ministère des Transports, par exemple, est représenté partout. Je suis sûr que même du côté de Lac-Albert, s'il faut interroger tous les services qui se trouveraient au bord du lac du côté congolais, vous trouverez un agent du ministère des Transports. Un agent, soit de la DGM, tous ces services-là sont là. Mais qu'est-ce que ces services font pour la protection des Congolais? C'est ça la grande question. Mais il y a des petites taxes qui sont en train d'être perçues. On a vu même dans les Libongo aussi, le long du fleuve Congo, partout il y a des taxes que les armateurs sont en train de payer, ils sont obligés de payer. Mais cet argent va où? Le ministère des Transports a été interpellé. Et un conseiller du ministre des Transports qui disait que non, ça s'est passé en Ouganda, et c'est pas chez nous. Non, même si ça se passe en Ouganda, les Congolais ont besoin d'être protégés par leur gouvernement, parce que le gouvernement est là pour le peuple congolais. Donc nous avons l'obligation en tant que gouvernement de protéger le peuple congolais. C'est ça la grande préoccupation. Et l'argent qui est perçu dans les taxes des armateurs, payé par les armateurs, doit se retourner vers l'amélioration des conditions de navigabilité dans les cours d'eau, soit la rivière Kasaï. On a déploré également des naufrages sous le fleuve Congo.
Et donc, Queen. Il faudrait que cet argent serve à quelque chose.
Serve à quelque chose pour améliorer les conditions de navigabilité sur les cours d'eau en République démocratique du Congo.
Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le président de la République, Joseph Kabila, a reçu jeudi passé dans sa ferme de Kingakati, à 80 km de Kinshasa, les cadres de la majorité présidentielle. Dans la déclaration publiée à l'issue de cette rencontre, la MP soutient l'organisation des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Pour elle, c'est une formule réaliste au regard des moyens budgétaires disponibles et des contraintes de calendrier. Aussi, le président Joseph Kabila a dénoncé les rumeurs lui prêtant les intentions, notamment celle de violer la Constitution. Guy Maté revient sur cette déclaration.
Le point 4 de cette déclaration, qui en contient 8, rappelle que l'autorité morale de la majorité présidentielle a défini comme priorité de son quinquennat la consolidation du développement économique et la reconstruction nationale. Cependant, ces communiqués soulignent que l'autorité morale a indiqué que la croissance ne se justifie dans son entendement que pour autant qu'elle impacte positivement et de manière équitable la vie des populations congolaises sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la consolidation du processus démocratique, la MP a résolu de soutenir pour le processus électoral en cours une formule réaliste au regard des moyens budgétaires et des contraintes des calendriers. Celle-ci consiste, selon ses communiqués, à organiser notamment les élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Au sujet du débat autour de la Constitution, ces communiqués rapportent que le président de la République a dénoncé les rumeurs lui prêtant les pires intentions, notamment celles consistant à fouler aux pieds la loi fondamentale. Il a déclaré qu'il ne sera jamais question pour lui-même et sa famille politique de comploter contre la République ou contre la Constitution. Le chef de l'État est le garant de la Constitution qu'il a toujours respectée et qu'il continuera à respecter dans toutes ses articulations, indique le communiqué. Tout ce qui se fera sous son autorité se fera conformément à la Constitution, fin de citation. À ce sujet, la majorité présidentielle dit envisager sérieusement l'idée de faire initier, les cas échéants, par qui des droits, une consultation référendaire sur des questions fondamentales portant notamment sur la parité homme-femme et les modes de scrutin pour les élections des députés provinciaux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 218 de la Constitution.
Merci Guimaté Germokolo. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. D'abord un commentaire sur cette réunion de Kingakati.
Oh bon, en fait, c'était quand même normal parce qu'on a senti quand même au niveau de la presse une certaine cacophonie au sein de la majorité. Il y en a qui disaient ouvertement que nous devons changer de constitution, nous devons modifier pour assurer la pérennisation du pouvoir de Kabila. Et d'autres disaient non, le chef de l'État va respecter la constitution et va remettre de façon civilisée les pouvoirs à son successeur. Bon, je crois, pour essayer un peu de mettre fin à cette cacophonie, à ces discours qui faisaient un peu désordre dans la famille politique, et surtout qu'il y a aussi le fameux gouvernement de cohésion nationale que tout le monde attend, peut-être pour que la famille puisse faire des arbitrages, qui entrera, qui n'entrera pas, je crois. C'est nécessaire qu'ils puissent se retrouver. Et c'est un peu de faire le point sur la marche de l'État sous la présidence de Joseph Kabila, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle. Mais je suis étonné qu'on puisse parler des rumeurs. Il n'y a pas de rumeurs, parce que quand un éminent cadre de la majorité présidentielle, comme Claude Machala, passe à travers le média, et il dit ouvertement qu'il tienne à tout prix que le chef de l'État puisse se maintenir au pouvoir au-delà de 2016 parce qu'il n'aura pas fini son projet de développement du Congo. Ça, c'est pas une rumeur. Quand, par exemple, il y a d'autres qui disent qu'il faut vraiment changer de constitution, c'est pas une rumeur. Quand on dit qu'il faut réviser le mode de scrutin pour les députés provinciaux, ce ne sont pas des rumeurs. Donc, il y a une vague d'informations, de communication qui est sortie dans les médias, de la bouche des responsables de la majorité présidentielle. Ça fait quand même qu'il y a des gens qui commençaient à en parler, ça crée une certaine tension. C'est pourquoi ils ont dû communiquer pour essayer un peu de calmer le jeu. Mais il y a quand même une certaine contradiction. Moi, j'ai suivi les porte-parole de la majorité au cours d'une émission sur Radio Capi. Dans une même émission, il dit qu'il ne sera pas question de toucher à la Constitution. Dans la même émission, il dit que non, on va organiser un référendum pour pouvoir toucher certaines dispositions de la Constitution. Non, apparemment, nous avons affaire à un ballon d'essai. Les gens ont balancé un ballon d'essai, ils se sont rendus compte que il y a eu vraiment une vague de protestations, de contestations, que ça risque de créer des problèmes. C'est pourquoi ils sont en train pratiquement maintenant là de pouvoir reculer, peut-être pour mieux sauter. Pour pouvoir finir, pour démontrer que c'est une fausse affaire, que de changer les règles du jeu juste à la veille des scrutins. On a suivi là l'envoyé spécial de Obama dans les pays des Grands Lacs dire par exemple qu'il n'est pas bon. Voilà, Ruth Feingold, il a dit qu'il n'est pas bon pour que l'on procède au changement des constitutions, rien que pour assouvir les intérêts d'un groupe qui est au pouvoir.
Claude Molicho, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. La réunion de Kingakati peut-elle finalement mettre fin à toutes les rumeurs autour du changement de constitution, d'un nouveau mandat du président Kabila?
Oui, il y a ce qu'on appelle les non-dits de Kingakati. Ce n'est pas tout ce qui s'est dessiné sur Kingakati qui a été porté à la connaissance du grand public. Non. Vous savez que dans toute famille politique, il y a ce qu'on appelle la dynamique interne. Au niveau de la majorité présidentielle aussi, il y a la dynamique interne. Il y a des gens qui sont pour la révision constitutionnelle ou tout simplement les changements de la constitution à travers un référendum. Il y a des gens qui disent que non, on révise, mais quelques articles, mais on ne peut pas toucher l'article, le fameux article 220 sur la durée et l'ombre du mandat du chef de l'État. Même le président du Sénat, lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars, il a dit que la constitution sera révisée. Donc c'est clair, ce n'est plus un secret. Donc le problème c'est au niveau du moment. Est-ce que c'est le moment de le faire? Avec toutes ces tensions qu'on enregistre, parce que nous sommes dans un pays fragile, moi je pense que nous devons éviter encore des problèmes. Nous avons besoin d'asseoir la démocratie. Si on est arrivé à la fin de son mandat, la famille politique peut monter des stratégies pour que quelqu'un d'autre puisse prendre les flambeaux et essayer un peu d'aller de l'avant pour montrer à ce que le Congo est en train d'avancer vers la vraie démocratie, vers la démocratie et vers les élections transparentes. Et on parle de minimiser les coûts pour ce qui concerne les élections locales,
les élections des députés provinciaux, suffrage universel indirect.
Ça, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas, peut-être la session du mars au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ce sera une session un peu très très chaude. Mais moi je pense que ce sera des élections où la corruption va régner, parce que quand on procède aux élections au second degré, mais ceux qui sont censés élire les députés provinciaux ou soit les sénateurs, comment ils vont se faire corrompre? Ça ne va plus refléter les réalités de la base pour qu'on dise que non, il y a une représentativité valable au sein de nos institutions. C'est ça le grand danger. On évite la corruption et nous sommes en train de combattre la corruption. Et le gouvernement et le peuple congolais, tout le monde est en train de combattre la corruption. Il ne faut pas qu'on revienne encore sur les antivaleurs, parce que la corruption, c'est une antivaleur.
Clément Mangoubou, vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Claude Molicho dit que la session de mars sera une session chaude, compte tenu de toute l'actualité autour de la révision constitutionnelle. Pensez-vous que au Congo, le Parlement congolais soit aussi efficace, par exemple, que le Parlement burundais qui a empêché le président Nkurunziza de briguer un second mandat en renvoyant carrément la loi? Est-ce possible en RDC?
Bon, il faut souligner que la plupart des non-représentants à l'Assemblée nationale, au Parlement comme au Sénat, se laissent emballer par les vertiges du pouvoir. Et ils refusent de s'inscrire dans la logique de la construction positive de la démocratie dans les pays, dans la logique du non-respect des principes mis en place par les Congolais eux-mêmes. Mais je crois en eux. Et je pense que cette fois-ci ou jamais, ils vont éviter au pays une tragédie. Ils vont se comporter comme des hommes d'État, des hommes qui aiment leur pays, des gens qui travaillent pour cultiver des vertus démocratiques véritables. Je crois qu'ils doivent suivre l'exemple du chef de l'État lui-même qui dit ne pas comploter contre la nation à travers une éventuelle modification de la Constitution. Je crois que s'il y a nécessité pour certaines dispositions de la Constitution à être révisées, comme l'a dit le président du Sénat, je crois que cela peut se faire dans la sérénité et la lucidité, et ne pas tomber dans les pièges de la destruction de la Constitution.
Il nous reste près de 5 à 6 minutes pour terminer cette émission. Jérémy Kolo, pourquoi on ne mettrait pas simplement tous ces problèmes de révision constitutionnelle, on ne les mettrait pas clairement sur la table et puis laisser le peuple congolais en discuter pour comprendre les tenants et les aboutissants, par exemple?
Oui, ce serait une bonne chose qu'on puisse, par exemple, voir qu'est-ce qui doit être révisé pour l'intérêt de la population. Je donne l'exemple des 11 provinces que nous avons maintenant, en principe que nous devons en avoir 26. Les difficultés que nous avons installées, les 26 provinces, on peut s'asseoir, dire non, on révise pour revenir, par exemple, à 11 provinces. Il ne faut pas qu'on fasse des révisions qui confortent la position des gens qui sont au pouvoir. Quand vous dites que non, c'est pour des contrôles budgétaires, on l'a vu en 2011, on a supprimé le second tour, on nous a dit que non, on n'avait pas de moyens pour organiser un deuxième tour. Or, c'était un moyen pour permettre peut-être à celui qui était là de pouvoir l'emporter confortablement. Il ne faut pas qu'à travers la révision de la Constitution, on permette à un groupe de gens de pouvoir avoir le contrôle de tout l'appareil de l'État. Quand par exemple les députés, les conseils communaux, éliront les députés provinciaux, les gouverneurs. Les gouverneurs seront élus par les députés provinciaux qui ont été élus pendant sur base de corruption d'argent, comme l'a dit Claude Molicho, et les sénateurs de la même façon. Donc on risque d'avoir seulement ceux qui ont l'argent qui vont se retrouver, qui gouverneurs, qui sénateurs, qui députés provinciaux. On l'a vu à Kinshasa avec l'élection du gouverneur. Mais on savait que les MLC est allé avec la majorité. Et les gens partaient à cette élection-là, déjà on chantait la victoire. Mais on a connu un coup de théâtre ici. C'est l'argent qui a parlé. Et puis, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que quand on s'accroche au pouvoir, et on frustre les gens. Et les jours où on quitte ce pouvoir-là, il risque d'y avoir des difficultés pour ceux qui ont hésité au pouvoir. Donc il va falloir qu'on encourage l'alternance. La majorité actuelle a la possibilité, par exemple, d'organiser des primaires en son sein pour avoir un candidat chef de l'État, par exemple, qui pourrait, si le peuple lui fait confiance, remplacer les chefs d'État actuels, Joseph Kabila Kabange, plutôt que de jouer avec la Constitution pour pouvoir le pérenniser au pouvoir. Parce que si on le fait, on peut le faire 20 ans, 30 ans, mais Mobutu s'est éternisé pendant 30 ans. Il est arrivé un moment où il ne pouvait plus garder ce pouvoir-là. Et voilà la façon dont il est allé finir pratiquement sa vie au Maroc. Si c'est pas une bonne chose, il faut qu'on s'en tienne à la promesse du chef de l'État. Si ce que Mina Kouadi est vrai, qui est vraiment une passation de pouvoir de façon civilisée entre les sortants et l'entrant, je crois que c'est ce qui est vraiment l'idéal à souhaiter.
Voilà, il nous reste presque 5 minutes, on tend déjà vers la fin de l'émission. Claude Molicho, vous posiez tout à l'heure une question sur l'opportunité d'une telle démarche concernant la révision constitutionnelle. On sent quand même cette tendance-là en Afrique subsaharienne, plusieurs pays, le Burundi, le Bénin et bien d'autres,
Burkina Faso,
qui sont dans cet élan-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Voilà. Bon, moi, je pense que c'est aussi le problème de culture démocratique. Vous savez que la démocratie, ce sont presque les mêmes règles. C'est universel. C'est une notion universelle, telle que ça se passe ailleurs, en France, aux États-Unis, partout. Mais des différences un peu près. Mais la démocratie, c'est ça. Mais quand on a la culture démocratique, on se dit, bon, j'arrive à la fin du mandat, peut-être quelqu'un d'autre de ma famille politique peut me succéder, mais on s'organise comment les soutenir pour que les choses avancent. Et puis on s'en sort un peu gaillardi, un peu démocrate.
Un peu plus fort.
Un peu plus fort.
Alors un mot en guise de conclusion, Claude, parce qu'on tente.
Oui, en guise de conclusion, moi j'ai dit que d'abord en ce qui concerne le drame de la Calvaire, le gouvernement bien sûr a décrété un délai de 72 heures qui s'est terminé ce samedi, mais c'est en retard. Il fallait qu'il réagisse vite et bien depuis la semaine passée pour essayer un peu de secourir et au-delà secourir les familles qui sont là, qui savent même pas comment ils peuvent enterrer leurs morts au niveau du territoire congolais.
Merci.
En ce qui concerne
la révision constitutionnelle,
moi je pense que ça risque de donner une mauvaise connotation pour dire que non, le chef de l'État actuel cherche à se maintenir au pouvoir.
En un mot, ce n'est pas opportun.
Ce n'est pas opportun.
Voilà, Clément Mangoubou, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous par rapport à la révision constitutionnelle et au naufrage sur le lac Albert?
Bon, par rapport à la révision constitutionnelle, moi je pense qu'on va s'en tenir simplement à la modification de certaines dispositions. Par exemple, par rapport à l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect, je crois qu'on pose des problèmes d'argent, de ceci, mais il y a aussi les problèmes de la parité homme-femme. Je crois que tout ça sera inscrit dans la Constitution. Et je crois que nous devons faire confiance au chef de l'État qui dit qu'il n'est pas là pour comploter contre la nation. Et je crois qu'il a tranché net. Et s'il y a des gens qui sont emballés par les vertiges du pouvoir, qui veulent créer des problèmes au pays, je crois qu'ils doivent maintenant s'arrêter et comprendre que le chef de l'État ne s'inscrit pas dans leur logique.
Merci Clément Mangoubou. J.R. Mokolo, conclusion.
Oui, moi j'inviterai en tout cas les dirigeants congolais et même africains de cesser en tout cas de considérer les pouvoirs comme un bien personnel. Quand on est au pouvoir, on est locataire, on est passager. C'est comme si on entrait dans un bus quand on arrive à sa destination, on descend. Parce que à force de se maintenir, vous créez des frustrations. Et il y a des gens même qui risquent par exemple demain de pouvoir prendre les armes parce qu'ils n'ont aucune possibilité de pouvoir quand même arriver au pouvoir de façon démocratique parce que ceux qui sont là s'y accrochent par tous les moyens.
Merci chers confrères d'avoir participé à cette émission. La Tribune de la Presse, c'est terminé pour ce soir. Guy Maté était à la réalisation, Sylvain Matundu à la technique, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, Alain Rung Mouchinge, c'est moi, je vous l'ai présenté. Bon week-end à tous, au revoir.